Bonjour Yann Kounen.
Bonjour.
Alors, vous êtes un réalisateur français. Vous avez commencé par les clips, les publicités, des courts-métrages et un premier film qui s'appelait Doberman. Et suite à ça, vous êtes parti au Pérou pendant un certain temps et également au Mexique à la rencontre des indigènes qui possèdent une connaissance millénaire par rapport à la nôtre, acquise au contact des plantes. Le fruit de vos voyages et de vos rencontres, eh bien, c'est une sorte de western chamanique, Blueberry, ainsi qu'un DVD qui est sorti un petit moment après mais qui a été tourné avant, je pense, qui s'appelait D'autres mondes.
D'autres mondes, oui, est un film qui est sorti initialement au cinéma. C'est un documentaire et c'est vrai qu'il avait été tourné avant, il est sorti après, puis maintenant il est disponible en DVD. J'ai profité pour laisser les scientifiques, les intervenants, les guérisseurs, les artistes développer leurs pensées.
Vous partez ensuite en Inde et vous réalisez un documentaire sur Amma qui s'appelle Darshan.
Darshan, ça signifie l'étreinte, en fait. Le mot indien signifie, j'ai découvert ça après, ce qui était intéressant, signifie la vision. En fait, la transmission d'une vision à travers une étreinte, puisque Amma, cette sage dont j'ai fait le portrait, en fait, cette sage indienne, sorte de sainte vivante aujourd'hui, dans l'Inde traditionnelle, prend les gens dans les bras et donne son darshan.
Donc, suite à ça, vous revenez, si on peut dire, à un cinéma un peu plus classique, en adaptant le roman de Beck Bédé, 99 ans, avec Jean Dujardin. Auparavant, pour tous ceux qui s'intéressaient au savoir des chamans d'Amazonie, on pouvait se référer donc au livre écrit par l'anthropologue Jérémy Narby, à des ouvrages de Vincent Ravalec, ou encore ou à vos propres films, documentaires, voire interviews. Or, il se trouve que le mois dernier sort chez Mama Éditions un livre qui est issu de deux discussions entre vous trois réunis.
En fait, ce qui est intéressant dans les entretiens, c'est qu'on se met à parler pendant 7 heures, on se connaît un peu, tous, et du coup, je pense qu'on aborde des choses, on va creuser, on va chercher des choses, au bout de plusieurs heures, on oublie qu'il y a un micro, et on va du coup avoir une sorte de conversation, on ne toucherait pas certaines parts de réflexion, on ne parlerait pas de certaines choses qu'on aborde dans le livre, parce que c'est sous le feu de la discussion.
Alors, donc ce livre, on va rappeler, ça s'appelle « Plantes et chamanisme, conversation autour de l'ayahuasca et de l'iboga ». Alors, peut-être avant d'aller un peu plus loin, on va expliquer brièvement ce qu'on entend par ayahuasca et iboga.
L'ayahuasca, c'est une liane. En indien, ça veut dire la liane des âmes ou la liane des morts. En fait, sous le nom d'ayahuasca, on parle d'une préparation qui est faite à partir de deux plantes, dont l'ayahuasca et la chacruna. Et le mélange des deux plantes est la préparation qu'on appelle ayahuasca. Cette préparation est utilisée dans un contexte traditionnel, à peu près dans toute l'Amazonie ou dans une grande partie de l'Amazonie. C'est une préparation qui est utilisée à des fins thérapeutiques. Donc c'est une plante qui est dite visionnaire. Elle a un effet psychotrope dans le sens où elle peut provoquer des visions chez l'individu. La liane ayahuasca, elle provoque une sorte d'ivresse qui va emporter le sujet dans se percevoir différemment, plus profondément au niveau de ses émotions, de ses sentiments, de son corps. Ses visions sont en partie en relation avec ce que l'on ressent. Donc c'est une sorte d'écran qui vous permet de voir ce que l'on sent.
Et l'iboga, alors, pour brièvement pour.
Alors, l'iboga, oui. Je connais moins. J'en ai pas pris. C'est Vincent Ravalec qui est spécialiste. Mais on peut dire que c'est une médecine aussi. Il y a des initiations et c'est quelque chose qui est un petit peu miroir de l'ayahuasca, dans le sens où elle a un effet psychotrope et elle va vous projeter aussi dans une perception différente de soi. Et a priori, à travers ça, vous allez comprendre des choses.
Et ce qui est important dans ce livre, alors, dans un premier temps, on va peut-être dire à qui est-ce qu'il peut s'adresser.
On peut rentrer sur ce sujet-là de la médecine indigène et de l'usage des plantes par ce livre. Je trouve aussi qu'il amène un complément par rapport à d'autres films existants sur le sujet, parce que quelque part, il va donner pas mal de conseils pratiques aussi. On va parler des dangers, chacun va raconter aussi des histoires de ce qu'il a vécu, on va parler de plein de petites choses.
Alors, on rappelle quand même que l'ayahuasca en France est un produit psychotrope, donc interdit, mais que par contre, en Amazonie ou en Amérique du Sud, c'est un produit qui est pris dans des rituels depuis des millénaires, en fait.
C'est un peu difficile à comprendre dans notre système de réalité et dans notre médecine. Mais il faut dire que l'ayahuasca n'est ni toxique d'un point de vue physiologique, ni addictive. Donc elle a effectivement un effet psychotrope, mais elle n'a pas ces deux points qui pourraient complètement d'ailleurs justifier la mise au tableau des stupéfiants. Et donc il n'y a pas ça avec cette plante. Mais par contre, étant donné le fait qu'elle a un effet fort, elle peut vous entraîner dans des choses profondes dans lesquelles il faut être guidé. Et en quelque sorte, moi, si je conseille d'aller là-bas, c'est d'une certaine manière d'aller vers ceux qui savent, parce que c'est une médecine, donc il y a des guérisseurs, et il ne faut pas séparer quelque part le médicament, on va dire, du thérapeute. C'est comme si le guérisseur est un chirurgien, et la plante est un outil. Donc pendant que la cérémonie se produit, le guérisseur va chanter, il va vous amener dans un voyage, et si vous y allez seul, ou si vous y allez dans un contexte qui n'est pas traditionnel, c'est une prise de risque, hein, le risque d'avoir un accident psychologique.
Est-ce que pour vous, cette initiation est une hygiène, non pas de vie, mais à vie ?
Je pense que le processus n'est jamais terminé.
Ouais.
Alors, il y a deux choses. Hein. On peut aller vers ces guérisseurs et cette médecine, ça, parce qu'on a un problème à régler. Alors, moi, j'y suis allé avec des vues mystiques plutôt, avec l'envie de savoir, de découvrir, de comprendre des choses. Et une des choses que j'ai compris, c'est que j'étais quand même très déséquilibré. Finalement, en étant d'ailleurs complètement dans un monde virtuel du cinéma et moins ancré dans les relations, dans la vie simple et dans ces choses-là. Donc, il se peut que je ne retourne plus. C'est pas pour autant que le processus sera fini. Je pense que c'est quelque chose, ça fera toujours partie de ma vie. Ça peut devenir une mémoire. Je pense que je garderai une partie de la discipline que m'a enseigné le temps passé avec les guérisseurs indigènes. J'ai pas donc un besoin, on va dire, de retourner là-bas, mais je le fais parce que je tisse une relation.
En lisant le livre, en fait, parmi les trois protagonistes de l'échange, vous êtes le seul à replacer votre expérience dans une quête spirituelle. Les prémices de cette quête, hein, qui a commencé comme beaucoup de monde par le baptême et le catéchisme enfant, qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à aller voir des chamans ?
C'est que ce type de quête, on va dire plus généralement métaphysique, qu'est-ce qu'on est, pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est, la vie. En enquêtant dans différentes traditions, c'est vrai que j'ai trouvé, d'ailleurs, même chez Thomas Merton avec les Pères du désert, la notion de méditation, la notion d'introspection, de voyage intérieur, d'univers intérieur. Donc, qui est présent dans toutes les religions. Et après, je me suis intéressé plutôt à la méditation via les bouddhistes, on va dire, ou les tibétains. C'est-à-dire cette faculté à observer l'émergence de la pensée, à comprendre comment on fonctionne. Et puis, dans ma recherche, qui était à la fois une recherche cinématographique, puisque je voulais faire un film, en enquêtant, à un moment donné, je suis tombé sur différents ouvrages qui parlaient justement de ceux qui font ce voyage-là avec l'aide de plantes. Et que les plantes modifier leur système de perception, en le modifiant, on peut l'étudier. Donc, bien sûr, à l'origine, Castaneda, et puis après, d'ailleurs, même Jérémy Narby, je pense que c'est finalement Jérémy qui m'a envoyé sur les traces de ces Indiens-là et de ces plantes-là. Et donc, j'y suis allé en me disant, voilà, qu'est-ce qui fait que quelque chose qui est considéré par une culture comme un outil de connaissance de soi, c'est-à-dire modifiant nos perceptions, nos sensations, notre pensée, pour comprendre comment elle fonctionne. Et puis par-dessus ça, comment ces gens, avec quelque chose qui pour nous est un rejet complet parce que c'est une zone de danger, une zone qu'on ne connaît pas, où les gens y vont de manière sauvage avec des choses d'ailleurs qui ont une toxicité, tandis que les Indiens y vont d'une manière en relation avec la nature pure, en disant les plantes ont un esprit et cet esprit communique avec l'homme, et de cette rencontre, il y a une médecine, il y a une guérison, il y a un voyage, il y a une connaissance.
Vous êtes issu d'une tradition judéo-chrétienne. Est-ce que, comme Antonin Artaud par exemple, vous avez eu là-bas des visions lumineuses qui étaient liées à la culture ou à la symbolique judéo-chrétienne ?
Je n'ai pas eu ça. C'est-à-dire que j'ai pénétré le monde des visions dans le système indigène. Et après, j'ai retrouvé mes marques, par exemple, dans le type de vision que j'avais par rapport à leur artisanat, par rapport à leur mythe, par rapport à leurs contes, par rapport à leurs histoires, par rapport à leurs bijoux. Je connais des gens qui en ont eu, et même des fois des indigènes. D'ailleurs, il y a des sortes d'églises un peu syncrétiques qui se sont montées, qui prennent de l'ayahuasca en vue de se connecter à la Vierge ou au Christ.
Alors justement, au sujet du Christ, dans Blueberry, il y a une scène qui a été coupée, je pense. C'est celle où, à un moment, le jeune shérif est recueilli et soigné par un chaman. Et à ce moment-là, il a le symbole du Christ avec lui. Et les chamans lui expliquent en fait qu'ils connaissent Jésus, mais on n'en a pas plus. Et je crois que ça a été coupé au montage.
Alors, pour moi, c'était aussi par rapport à l'époque où il y avait eu les missionnaires. C'était de montrer en même temps les ponts entre l'interprétation indigène du Christ. C'est-à-dire quelque part, quelqu'un qui est parti vers l'autre monde et qui est parti avec son corps. Pour les guérisseurs, Jésus est un très grand chaman. Voilà. Mais après, c'est un peu provocant par rapport à la religion, mais si on regarde un petit peu dans les endroits où était le Christ, à l'époque où était le Christ, les plantes qu'il y avait et les rites qu'il y avait autour, et certains se posent des questions sur le sujet. Est-ce que c'était pas vraiment une sorte de... Pour les Indiens, en tout cas, voilà, de très grand chaman, un grand maître. Moi, j'ai rencontré des gens qui, quelque part dans leur théorie, leur peut-être fantasmagorie, hein, mais je trouve l'idée assez puissante, en fait, et assez forte, c'est que dans l'ayahuasca, il y a une notion de mort symbolique. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'expérience, on pense qu'on va mourir et on meurt à une partie de soi. Et à partir de là, on se recompose, ou l'ego, ou la psyché va se recomposer. Mmh. Et en même temps, on va dire que c'est une sorte de porte, et c'est quelque chose qui va vous apporter dans le vivant des choses positives. Rencontrant la peur de la mort sans mourir, ça nous aide. C'est un sale moment à passer, mais ça nous aide. Et quelque part, une des théories que m'ont dit différentes personnes, c'est que le Christ, lui, réalise sur la croix non pas la mort symbolique, mais au sein même du rituel, la mort dans le macrocosme. Et donc, en ce sens-là, il transcende la réalité. Pour moi, la reliance, je l'ai fait de ce point de vue-là.
Où en êtes-vous, Yann Kounen, au sujet de la religion chrétienne?
Moi, j'ai pas d'idée figée, je ne suis pas quelqu'un de religieux. C'est-à-dire que les figures, les prophètes, en fait, les sources des religions m'intéressent plus que la structure, on va dire, qui a germé derrière, qui est devenue la religion, qui pour moi, comme de figer quelque chose.
Oui, oui.
Et donc, c'est pour ça que je peux faire un film sur Amma, qui est quand même une religieuse. Hein.
Oui.
Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est les pratiques qu'elle propose. D'ailleurs, les pratiques, que ce soit dans n'importe quelle religion, que ce soit de l'ordre de la prière, de la transe, où les religions vont apporter à l'homme des possibilités de soi-même aller vers une sorte de transcendance. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est les religions, parce qu'il n'y a pas d'autre chose dans notre société, ou les guérisseurs, on va dire, d'un autre côté, puisque c'est pas une religion, hein, la médecine traditionnelle n'est pas une religion, même si elle rentre dans le domaine, une sorte de domaine holistique où la spiritualité est inclue dans la pratique du soin, que le soin passe aussi par des niveaux spirituels. Mais ça reste des guérisseurs. L'acte du chaman est dirigé pour soigner la personne, la rééquilibrer. Pour résumer, même l'intérêt, on va dire, vers le chamanisme plutôt que les grandes religions, je ne sais pas. Moi, je vois pas ça comme quelque chose de spirituel, je vois ça comme quelque chose qui est d'ordre de la médecine. Peut-être aussi que c'est intéressant dans le sens où je dirais que quelque part, c'est comme pouvoir rencontrer des choses qui sont entre Dieu et l'homme, si on parle des religions monothéistes, hein. C'est-à-dire rencontrer une sorte d'intelligence ou d'esprit de la nature ou des choses qui sont dans des pans intermédiaires.
Une vision peut-être plus animiste des choses?
Voilà, peut-être aussi ça représente à un moment donné dans notre civilisation, à une perception même complètement instinctive du manque de reconnexion à la nature et à ce qui nous lie à elle et à ce genre de déséquilibre-là, qu'on peut aussi, comment dire, voir comme un problème spirituel finalement.
Quels sont vos projets futurs?
C'est de continuer à faire des films. J'en ai un qui est finalement un film de commande, mais des indigènes. Ils m'ont demandé après Blueberry et d'autres mondes, ils m'ont dit ces films sont bien, mais maintenant il faudrait faire le nôtre et parler de nos histoires. Donc je prépare et j'écris un film basé sur les contes, les légendes et les histoires des Indiens Shipibo, la dimension d'ailleurs de la spiritualité, on va dire, mais à travers une sorte de film pour enfants en dessin animé. Puis effectivement, je projette d'adapter le roman de Eliette Abécassis qui s'appelle Qumran. Et donc, quelque part, quand on parlait du Christ, peut-être de continuer à tisser un lien sur...
Bon, bah écoutez, Yann Kounen, merci beaucoup. Et puis, bonne route, alors.
Bah merci, vous aussi. Au revoir.
Au revoir, merci Yann Kounen.
Tondini jinzon, sinan tondini jinzon. Nete dando mayonge, mai dando mayonge, pado dando. Kaisanta